Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Il est 18h35, vous êtes toujours dans Restons courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous avons parlé de traître pendant une heure avec Françoise Zéréza et maintenant nous allons parler de laïcité, même un peu plus, avec Benoît Dumoulin. Benoît Dumoulin, bonjour.
Bonjour Arthur de Vatrigan.
Merci, restez bien devant votre micro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes déjà venu il y a quelques mois, mais on est ravis de vous revoir parce que vous sortez un livre. Alors, d'abord, on vous représente, vous êtes directeur d'Ictus, vous êtes professeur en histoire des idées politiques, et vous publiez donc « Quelle laïcité pour demain ?» La très belle édition Bolen, un essai donc qui revient sur ce mot que tout le monde utilise, que chacun brandisse parfois comme un talisman, d'autres comme un truc à éliminer. Bref, on va refaire un peu toute cette histoire-là, puis essayer de comprendre d'où ça vient, ce que c'est aujourd'hui, et ce qu'il faut le garder, ce que c'est utile surtout. Mais vous le savez, chers auditeurs et chers Benoît, nous avons une tradition dans l'émission, celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ça fait pas trop mal.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Si, ça fait très mal. La République, c'est un régime, une mystique ou une mauvaise habitude?
En fait, ça peut être les trois. Un régime, assurément. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la République romaine. Là, la République telle qu'elle a été instituée en 1792 et telle qu'elle est perpétuée aujourd'hui, telle qu'elle est vécue comme une incantation, c'est évidemment une mystique. C'est pas la République de Charles Péguy, c'est pas la République Notre Royaume de France, c'est la République qui remplace l'espace naguère occupé par la religion et qui, du fait d'une laïcité qui confine au laïcisme, on y vient, eh bien, veut devenir un peu une idole, l'idole des temps modernes. Alors, est-ce que c'est une habitude? Bah oui, en fait, parce que les autres formes de régime sont tellement loin derrière nous que, en fait, c'est devenu, c'est les trois. C'est un régime, une habitude et une mystique. Et le plus grave, c'est que ce soit une mystique.
Quel est le plus grand contresens sur 1905?
Alors, plus grand contresens, ben oui, c'est de dire 1905, ça a été une loi d'apaisement, ça nous a libérés, c'est formidable. D'ailleurs, ça correspond totalement à la distinction des pouvoirs voulue par le Christ, parce que c'est le Christ qui a inventé la laïcité en disant « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ça, c'est le plus grand contresens, parce qu'on y viendra peut-être, c'est pas
sûrement.
Du tout
ça. Alors, 5 convives pour un dîner idéal sur le sujet de la laïcité, qui dit dîner la française, donc empoignait des coups de gueule.
Ah ben bien sûr. Alors dans ce cas-là, faut mettre Manuel Valls, forcément, avec Marlène Schiappa. De l'autre côté, vous mettez Nicolas Cadenne, Jean-Louis Bianco, et puis vous mettez, alors en dernier, soit Vincent Peillon, soit Mélenchon pour arbitrer le tout. Ça peut être assez marrant. Là, vous avez un peu toutes les visions de la laïcité, en tout cas à gauche, qui sont récapitulées.
L'homme d'État français que vous auriez aimé voir gouverner en temps de crise, et autant dire qu'on est en temps de crise depuis un certain temps.
Eh ben oui, il faut un homme à poigne, parce que les temps appellent un homme à poigne, et je pense que Richelieu est à la fois intelligent, est un homme qui a le sens de l'État, et c'est un homme à poigne, et donc c'est un homme comme ça qu'il nous faut.
Quel siècle la France n'aurait jamais dû quitter ?
Le 17e, justement. L'art à la française, le siècle des salons, mais des salons où... Pas mondain, c'est pas le 18e, vous voyez, le 17e, c'est le siècle de Pascal, c'est le siècle de la grande littérature, c'est le siècle de la contre-réforme. Donc oui, on n'aurait jamais dû quitter le siècle de Louis XIV.
Vous préférez un dîner vegan avec matcha, un thé, hein, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, avec Nicolas Sarkozy, ou un dîner côte de bœuf et Romanée Conti avec Mélenchon?
Ça serait plus un dîner à la française si on avait... un dîner côte de bœuf et Romanée Conti avec Mélenchon. Mais si vous voulez, quand on parle gastronomie, eh bien, la politique, on l'emmerde. Vous voyez, c'est comme, vous connaissez ce mot de Daudet qui disait l'armée française, quand il s'agit de littérature, c'est à propos d'un concours, quand il s'agit de littérature, de voyage au bout de la nuit en plus, quand il s'agit de littérature, l'armée française, je lui dis merde. Voilà. Quand il s'agit de gastronomie et de dîner à la française, la politique, je lui dis merde.
Quel est le livre que tout responsable politique français, peut-être ailleurs, devrait avoir lu?
Ah, alors, Si on parle de la France, moi je vous dirais quand même Situation de la France de Pierre Manant, parce que ça a été publié en 2015, et je pense que c'est un des rares intellectuels à être descendu dans l'arène, non pas politique, mais dans le cœur du mal français qui est l'impossibilité pour le peuple français de se référer à une tradition, à une histoire, à une identité. Et donc, il aborde ce mal avec la hauteur dont il est capable, et en même temps, en rentrant dans le vif du sujet, en disant qu'il faut que la France affirme qu'elle est vraiment de marque chrétienne.
Dominicain ou franciscain ?
Ah bah dominicain quand même. Les franciscains, non mais c'est gentil, j'aime beaucoup les franciscains, mais quand même, il y a un moment, il faut donner place à la fois à la vie de l'esprit, et puis faut se méfier de. Enfin, c'est bien d'avoir le sens de la propriété, vous voyez, c'est pas mal. Faut mettre toutes les choses à leur place. Les dominicains, ils donnent à la fois leur place à la raison, à la foi. Ils aiment bien se faire des bonnes bouffes. Et je pourrais même pas me faire ma côte de bœuf avec Mélenchon s'il était franciscain. Et puis le sens de la propriété privée, c'est bien. Regardez ce que ça donne, la propriété collective, ça donne les colcoses, hein, donc on n'aime pas trop.
Thibon ou Bernados ?
Ah bah Thibon, parce que quitte à être...
Il y a une radicalité quand tu l'achètes, évidemment, enfin, cher ami, évidemment.
C'est clair, il n'y a pas d'hésitation.
C'est-à-dire que...
Il range les choses.
Quitte à avoir deux personnages torturés, parce qu'il s'agit quand même de deux personnages torturés, il y en a un qui est quand même un peu moins torturé que l'autre. Enfin, il est torturé sur la question de la foi et sur la fin de sa vie, mais ça n'a pas empêché d'avoir à chaque fois son bon sens paysan, d'être bon convive, d'être drôle, d'être agréable. Voilà.
Dernière question pour la route, on va voir s'il va répondre avec autant d'entrain et de certitude. Mai 68 ou 1793 ?
Alors là, vous parlez dans l'échelle du rejet.
Je ne juge pas.
Ou dans l'adhésion.
De ce que vous voulez.
Bah, mai 68, ou moi ce qui me dérange c'est le ou, parce que je vois quand même...
Ah non, c'est pas la question, filiation. Je vais faire mon rapporteur, c'est pas la question.
Je vois une filiation entre les deux. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, moi je vais essayer de faire, de décortiquer, parce qu'il faut faire de la maïeutique avec vous. Donc, mai 68 ou Révolution française, vous voulez dire, qu'est-ce qui est le pire ? C'est ça, qu'est-ce qui a le plus détruit la France ? Bah, en fait, le problème c'est que c'est très compliqué pour répondre à ça, c'est que je crois qu'on est dans une logique où la Révolution française, c'est François Furet qui l'a très bien écrit, c'est pas un événement qu'on peut enfermer dans les bornes historiques 1789-1799, bien sûr que c'est ça sur un plan historique, mais c'est aussi le début d'un processus. Et ce processus, c'est le processus de désaffiliation, de déracinement, c'est un processus qui vise à émanciper l'individu de toutes les attaches qu'il peut avoir, et ça a donné mai 68 ensuite. Donc vous voyez, c'est l'un est dans le prolongement de l'autre.
Alors, revenons à « Quelle laïcité pour demain ?» aux éditions Bolène. Il est sorti.
Ah oui,
donc vous le trouvez, chers auditeurs, dans toutes les bonnes librairies, puis vous pouvez également le commander sur les différents sites qui vendent des livres. Repartons donc à la source, comme évoqué un peu plus tôt, sur le contresens qu'on faisait sur 1905. Alors, c'est quoi historiquement la laïcité française ?
Ah, vaste question.
Mais réponse courte.
Déjà, il faut s'entendre sur les mots. Le mot de laïcité, il apparaît en 1871, donc assez tardivement. Il apparaît dans un contexte bien précis, celui de la Commune de Paris. Puis après, sous la Troisième République, il est repris par Ferdinand Buisson, qui était un des adjoints de Jules Ferry à l'éducation, à l'instruction publique, comme on disait. Et à l'époque, la laïcité à la française, ça veut dire vraiment la volonté de construire un ordre politique totalement émancipé de la foi, c'est-à-dire que l'ordre politique, que ce soit l'éducation, l'école, l'État, ne doit pas se référer d'une quelconque manière à la religion catholique qui n'a pas sa place dans le débat. Donc c'est ce qu'on appelle la fin de l'hétéronomie politique, c'est-à-dire le fait de se référer à une norme qui est, en l'occurrence, religieuse et qui n'est pas directement issue du suffrage universel. Donc c'est en fait le prolongement de la démocratie de 1789. Elle postule la laïcité comme organisation des hommes en ne comptant que sur la raison humaine et en reléguant la religion, en l'occurrence catholique, dans l'espace privé.
Voilà. Alors, comment on arrive à la loi de 1905 ?
Alors ça, c'est l'aboutissement.
Quel processus ?
Mais, ça, c'est un aboutissement. Avant de répondre à votre question, je précise juste que par un raccourci de l'histoire, on a dit que c'était le christianisme qui avait inventé la laïcité. En fait, le christianisme invente quelque chose qui s'appelle la distinction des pouvoirs, mais qui est très important et dont la laïcité est une contrefaçon. Voilà, donc il faut quand même, on est obligé de remonter à cette distinction des pouvoirs parce qu'elle est fondamentale. Qu'est-ce qu'elle dit, la distinction des pouvoirs spirituels et temporels ? Elle dit simplement que ça ne doit pas être le même bonhomme qui doit à la fois gouverner les esprits, les cœurs, avoir le pouvoir religieux et celui qui impose l'ordre public, qui a un pouvoir de nature politique. Ça, c'est la grande invention du christianisme, de dire que ces deux ordres, ce sont des ordres de nature différente. Vous ne procédez pas de la même manière quand vous assurez l'ordre public dans une cité et puis quand vous avez un pouvoir de nature religieuse. C'est des pouvoirs différents. Il y en a un qui vise le salut des âmes, l'autre qui vise le bien commun. Il y en a un qui agit par persuasion intérieure, parce que la foi, c'est quelque chose, c'est une adhésion libre de l'intelligence et de la volonté. En tout cas, dans le christianisme, ça ne s'impose pas. Donc, on peut persuader, on peut convaincre, on s'adresse à l'intelligence et au cœur, tandis qu'il y a une contrainte des corps qui est l'essence même du politique, parce que le politique peut vous mettre en prison. Ça, c'est la grande invention du christianisme, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait deux pôles. Et comme on dit, par exemple, que la société médiévale était une société à deux têtes. Le politique, le religieux, le temporel, le spirituel. Et en fait, toute la grande invention de la Révolution française, c'est de couper une des deux têtes, c'est-à-dire le pouvoir spirituel qui n'a plus à régenter la société dans son ordre. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à une société qui n'est plus dualiste, qui repose plus sur deux jambes ou deux têtes, comme vous voulez, mais qui est uniquement moniste. Et finalement, il n'y a plus aucun contre-pouvoir au pouvoir politique. C'est comme ça qu'en fait, ces sociétés modernes qui reposent sur la souveraineté nationale, eh bien, elles se sont progressivement, elles ont occupé tout l'espace et le politique a prétendu régir tout l'espace social. Et là, et maintenant, je réponds à votre question, et ce sera court, la loi de 1905 se veut comme le couronnement de ce processus en disant désormais toute souveraineté sur Terre relèvera du suffrage universel. Il n'y aura plus rien qui sera d'un autre ordre, qui dépendra d'un autre seigneur qui serait au ciel. Non, désormais, c'est le grand mot de Viviani au lendemain de la loi de séparation des Églises et de l'État. Nous avons tué dans le ciel des étoiles que personne ne rallumera. Donc, il fallait vraiment...
Phrase terrifiante.
Et ça rejoint aussi celle de Jules Ferry. Nous voulons organiser l'humanité sans Dieu et sans roi. À ce moment-là, Jaurès se dit, ouais, mais pas sans patron. mais vous voyez, c'est ça, la loi de 1905. C'est l'aboutissement de tout ce processus.
Rémi Carlu.
Oui, quel est l'état des forces politiques au moment du vote de la loi de 1905 et quelles sont les différentes propositions mises sur la table sur ce sujet et surtout, quelle version de la laïcité l'emporte en 1905? Parce qu'il y a souvent un débat aujourd'hui pour savoir si c'est une version dite laïciste, est-ce que c'est au contraire une version plus libérale? Ouais. Qu'est-ce qu'il en est vraiment?
Alors, question très intéressante. En fait, il y avait au sein du bloc de gauche qui globalement veut la séparation parce que pour toutes les raisons qu'on a rappelées, c'est l'aboutissement d'un processus d'émancipation du pouvoir politique. Vous avez une grosse moitié qui veut vraiment une séparation assez radicale. Qui serait considéré comme vexatoire pour l'Église catholique, qui envisage même de dire bah, pourquoi pas, on pourrait transformer les églises en lieu de convivialité, Un peu comme les, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais les révolutionnaires avaient transformé des églises en temples de la raison. Donc l'idée, c'est quand même de dire, on va remplacer la religion par autre chose, et donc soit la République, soit la raison. Donc là, il y a quand même toute une fraction qui est un peu en mode 1792-1793. Et puis il y a au début une minorité, mais finalement ça va devenir une majorité, l'aile brillant Jaurès. Alors ce sont pas des radicaux, ce sont des socialistes justement. Et les socialistes, ils sont à la fois à gauche des radicaux, mais sur la question religieuse, ils sont moins radicaux que les radicaux, parce que l'essence des radicaux, c'est le combat pour la laïcité. Et donc, et puis ils sont plus malins politiquement, ils savent très bien que dans un pays qui est majoritairement catholique, ça passera jamais ce genre de loi. Donc, et même si c'était voté, il y aurait une révolution. Et donc eux se disent, eh bien, on va proposer une séparation qui globalement sera acceptable pour les catholiques, et d'autant plus acceptable qu'ils savent très bien que sur le fond, les catholiques n'adhèrent pas vraiment au régime en place, qui est le régime concordataire. Régime concordataire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le régime qu'a mis en place Bonaparte en 1801. C'est un régime qui place l'Église dans la main de l'État. Tout simplement, parce que en fait, les évêques, ils ne peuvent pas sortir de leur diocèse sans l'autorisation du gouvernement, ils ne peuvent pas publier des documents du pape sans l'autorisation du gouvernement. Donc en fait, sur le fond, les catholiques, ils ne seraient pas trop mécontents de sortir de ce régime-là, même si c'est pour un appauvrissement matériel. Le plus important, c'est la libertas ecclesiae, la liberté. Et du coup, Briand et Jaurès se disent, bah, si on arrive à faire une version de la séparation qui soit acceptable aux yeux des catholiques, on peut même obtenir des catholiques, des députés catholiques qui la votent. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être la séparation va être un mix des deux, c'est-à-dire qu'il y aura le côté vexatoire voulu par les radicaux, qui se retrouvera dans certains articles, notamment on en reparlera peut-être sur la dévolution des biens du culte, où là vraiment ça sera vexatoire, où il y aura une spoliation, voilà. Et puis à côté, il y aura quand même une loi dite libérale qui, telle qu'elle est présentée, pourrait être acceptable, mais c'est sans compter que de l'autre côté des Alpes, le pape Pie X n'a plus du tout aucune confiance en la République française. Donc c'est lui qui insistera pour donner un ordre de fermeté aux catholiques en disant « n'acceptez pas cette loi ». Et c'est là qu'en fait on va sauter dans l'inconnu, on va avoir un affrontement du fait que, eh bien, il y aura un vide juridique, les catholiques vont refuser d'appliquer cette loi, et puis après... Je termine par ça. Après la Première Guerre mondiale, on change complètement d'époque. La guerre est passée par là. Il y aura un apaisement, il y aura une jurisprudence libérale. Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a une réconciliation dans les tranchées. Tout le monde s'est fait découper. Les catholiques comme les laïcs. Et ça permet de réconcilier sur fond de patriotisme.
Voilà, puis surtout, il y a des dispositions qu'on n'appliquera pas parce que, justement, on considère qu'elles sont trop vexatoires, ou d'autres qu'on appliquera de manière plus libérale, et donc on va avoir une... Faut dire que cette loi de séparation, entre-temps, elle a été complétée, et puis on a eu un accord en 1924 avec...
Alors ça, on va revenir sur les différentes évolutions.
Voilà, et là, en gros, entre 1920... et 1990, on va avoir une jurisprudence libérale qui va marquer une forme de coexistence pacifique.
Alors, juste, restons un peu sur 1905. Bon, il y a l'Église catholique, évidemment majoritaire, mais il y a aussi des juifs, puis aussi des protestants. Alors, justement, comment la loi de 1905 ne concerne pas exclusivement les catholiques? Donc, quelle est la réaction des juifs? Quelle est la réaction des protestants?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, vous avez tout à fait raison. Pourquoi elle concerne...
Des bonnes questions, vous l'avez remarqué.
Pourquoi elle concerne juifs et protestants? Tout simplement parce que, en fait, le système concordataire avait été élargi aux protestants et aux juifs par Napoléon. Et donc, il est évident que lors du vote de la loi, eh bien, la loi concernait, en dénonçant le budget des cultes, ça concernait en termes financiers à 95% les catholiques, mais ça concernait aussi protestants et juifs. Ce qu'il y a, c'est que le protestant et juif n'avait aucun problème contre la séparation. D'abord parce que c'était des cultes qui s'estimaient émancipés par la République. Donc, ils estimaient que, en fait, ils étaient redevables de cette République qui leur avait permis de sortir de cette majorité catholique qu'ils estimaient oppressante sous l'Ancien Régime. Donc, eux, ils s'estimaient émancipés. Faut rappeler aussi qu'il y a un certain nombre de protestants, peut-être moins de juifs, mais quelques-uns quand même, qui ont pris part à ces lois qui ont des... Par exemple, vous prenez Jules Ferry, lui-même est déiste, mais il a épousé une fille de pasteur, et donc il est très lié au milieu protestant. Et dans les milieux de l'instruction publique, on retrouve Félix Pécaud, Jules Stig, ça qui sont des protestants. Donc, déjà, le contexte n'est pas le même. Et ensuite... les protestants et les juifs vont accepter la séparation, alors que les catholiques vont la refuser. Et les conséquences juridiques vont pas être les mêmes. Pour donner un exemple, les catholiques, comme ils refusent la séparation de l'Église et l'État, ils refusent de constituer les associations qui doivent prendre en charge tous les biens du culte, les églises, les séminaires, les évêchés, et donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un vide juridique. L'Église refuse de constituer ses cultuels. Je pourrais vous expliquer pourquoi si ça intéresse certains de nos auditeurs. Et à ce moment-là, eh bien, l'État confisque. Et c'est la deuxième spoliation dans l'histoire après celle de la Révolution. Deuxième nationalisation des biens du clergé. L'État confisque tout ce qui n'est pas cultuel et en fait des préfectures, des tribunaux. C'est pour ça que vous avez, vous allez Place Saint-Sulpice, à côté de l'église, là, vous avez un grand bâtiment. Bah, c'est l'ancien séminaire de Saint-Sulpice. Maintenant, c'est un bâtiment des finances. Bon. Voilà. Donc, il y a une grande spoliation. En revanche, les églises, il en est devenu propriétaire, enfin l'État ou les communes. Qu'est-ce qu'il peut faire avec des églises sur les bras? Politiquement, il était obligé de les mettre à disposition. C'est ce qu'on appelle le régime de l'affectation des curés. Et donc, c'est une affectation qui, au début, est sans cadre légal. Il faudra attendre après la Première Guerre mondiale pour avoir un cadre légal. Et à ce moment-là, l'Église ne se rend pas compte qu'en fait, sur le long terme, elle va en être bénéficiaire.
Oui, parce que c'est l'État qui doit entretenir.
Et c'est l'État ou les communes, et c'est encore le cas aujourd'hui pour toutes les églises construites avant 1905. Mais il faut voir qu'à l'époque, ça a été vécu comme une vexation parce qu'il y a eu toute cette spoliation. Alors que les bons élèves de la laïcité, protestants, juifs, eux, ils ont constitué les cultuels, ils ont recueilli ici leur temple, ici leur synagogue, et maintenant, 100 ans plus tard, ils doivent les entretenir.
Alors, on va continuer à aller dans le détail, et puis surtout on va parler d'aujourd'hui, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, qu'est-ce qu'on fait avec cette laïcité? Alors on a bien compris que la laïcité était vendue comme une arme pour lutter contre les conquêtes islamiques, puis dans l'application on se rendait compte que finalement on décrochait plus facilement des croix des écoles qu'enlever les voiles des petites filles dans la rue. Mais vous savez que si vous voulez pas vous faire spolier, chers auditeurs, il faut continuer à donner à Radio Courtoisie, puisque c'est une radio libre qui vit que du don de ses auditeurs, et donc sans vous, la radio ne peut pas continuer d'émettre déjà, mais surtout de produire des contenus de qualité. Donc si vous voulez continuer à écouter Radio Courtoisie, écoutez ce petit message.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Reste en courtois. Arthur de Vatrigan.
Il est 18h58, vous êtes toujours sur Restons Courtois, dans Restons Courtois, pardon, l'émission de débat sur Radio Courtoisie. Et nous recevons donc Benoît Dumoulin qui publie Quelle laïcité pour demain aux éditions Bolène. Mais vous savez également que quand il est presque 19h, on parle de culture, quel que soit le sujet. Alors, cher Romaric, quelles sont les nouvelles du côté de la culture?
Bien, cher Arthur, la haine de l'art progresse. Ayant évoqué dans un édito qui a encore bénéficié d'un retentissement formidable le reniement de Picasso par la chanteuse Rosalia, celle-ci ayant été poussée par ses fans à dénigrer le peintre espagnol au prétexte de son comportement privé, on m'a envoyé ce matin un article du Nouvel Obs de cette semaine, oui, ce journal existe toujours, faisant comparaître au tribunal des cancellers l'opéra de Philip Glass, Satyagraha, qui sera joué à partir de vendredi à Paris. Que reproche-t-on au compositeur new-yorkais, pourtant idéologiquement siéliste, et qui fit de cette œuvre un hommage à Gandhi et à la non-violence dont celui-ci fut l'apôtre, au point même que les cuivres, instruments guerriers, sont absents de cette composition? Mais, mais l'appropriation culturelle, pardi. Il y a quelque chose de cocasse, évidemment, à voir les propagandistes de la gauche d'hier, cette gauche humanitariste des années 80, qui avait fait de l'antiracisme le summum de la vertu morale et qui avait troqué le christianisme contre un syncrétisme fumeux à dominante bouddhiste, se faire aujourd'hui tenser comme des racistes par les ayatollahs de la nouvelle gauche postmoderne, qui interprètent comme relevant de la condescendance coloniale les hommages empressés d'hier à toute grande figure exotique. Néanmoins, si la peinture de Picasso doit être annulée parce que son créateur, quoique de gauche, fut un mâle toxique, que les romans de Céline méritent annulation parce que leur auteur fut un antisémite revendiqué, mais que la musique de Philippe Glass, par contre, doit être annulée aussi parce que l'antiracisme affiché du compositeur dissimule un inconscient colonial enfin mis à jour, il ne va pas rester grand-chose pour nous enivrer au buffet des beautés neuves et des splendeurs classiques.
Les hommes sont vraiment absurdes, comme le déclarait un grand écrivain danois, le plus grand même. Pourquoi appliquer systématiquement des jugements moraux anachroniques sur des œuvres d'art? On ne va évidemment pas assister à... Alors, je ne connais pas ce truc-là, c'est un opéra. Satyagraha. Cet opéra 1979 en vue d'être édifié dans les valeurs 2026. C'est une obsession d'idéologue.
En effet, cher Arthur, mais justement, le paradoxe de notre époque, c'est que les idéologues en question, les nervis de la nouvelle gauche morale, les fanatiques de la pureté éthique, les obsédés des intentions inconscientes malignes ou les greffiers des secrets d'alcôve, sont précisément ceux qui dominent le milieu médiatico-culturel. Ces gens-là ne sont pas si nombreux. On en trouve guère dans les commissariats ou les infirmeries. Ils ne tiennent pas les boulangeries ou les bureaux de tabac, l'agriculture ou l'hôtellerie, ni l'énergie nucléaire ou les transports publics. Non, le puritain à cheveux bleus squatte les institutions artistiques. La gestion du théâtre, de la médiathèque, de la salle de concert a été confiée au parti des dévots. Et c'est donc une catastrophe, car le puritain a justement une compréhension complètement faussée de la fonction de l'art. Pour lui, l'art est un pur médium de rééducation morale. Une musique, un tableau, un livre ou un spectacle ont pour mission première de rendre vertueux ce qui s'y expose au sens de la vertu woke américaine du 21e siècle. C'est-à-dire plus déconstruit, plus gender fluide et plus castré si vous êtes un homme blanc, plus fier, puissant, radieux, affirmé, offensif si vous appartenez à une autre catégorie humaine. En somme, pour le dévot contemporain, l'art est une thérapie par la honte ou par l'honneur. Rien d'autre. Si l'on comprend cela, alors le reste s'éclaircit. Il devient évident que des mœurs suspectes, des déclarations blasphématoires ou des points de vue douteux peuvent possiblement ruiner tout le processus. Un peintre qui gifle sa muse décrédibilisera le pouvoir de réforme morale contenu dans ses toiles. Un chanteur, même de gauche, même pro-palestinien, qui tue sa maîtresse un soir d'excès, ne pourra plus garantir l'effet moralisateur de sa musique. Un compositeur américain, jouant avec les figures d'une culture autrefois dominée par la sienne, sans les précautions et la pénitence requises, ne permettra pas de démoraliser l'orgueil occidental comme il le faudrait. Or, c'est là, évidemment, un grand malentendu sur la nature de l'œuvre d'art. Celle-ci n'est pas censée fonctionner ainsi. Il faut la considérer non comme un outil de rééducation, mais comme un objet radioactif au rayonnement plus ou moins élevé. Qu'importe le comportement ou les idées personnelles de son créateur, l'objet est bien ou mal construit et son rayonnement est plus ou moins intense. Celui-ci permet, au degré les plus bas, un divertissement, un amusement, un léger émerveillement, au degré les plus hauts, un bouleversement décisif, voire une expérience transcendante. En ce sens, une œuvre est comme un circuit électrique. S'il est correctement établi, le courant circule, même si son concepteur roule en 4x4 et trompe sa femme.
C'est donc cette vérité qu'il faudrait rapprendre aux cancellers, pensez-vous. Ils pourraient ainsi promouvoir un art de qualité plutôt qu'une machine de formatage collective et ne nous priverait pas inconsidérablement des romans de Knut Hamsun, célèbre norvégien.
Figurez-vous que non, j'ai mis beaucoup d'obstacles dans les questions d'Arthur.
C'est le défi de citer un maximum d'auteurs norvégiens. Ou de l'Est, du Nord, nordique plutôt.
C'est ça, avec trop de consonnes dans les noms.
Ah, c'est compliqué.
Figurez-vous.
Un très bon, très grand écrivain, ce Hamsun.
Bien sûr, mais tout à fait. Knut est un grand écrivain. Mais pas très moral, par contre. Figurez-vous que non, cher Arthur, je crois qu'il faut parfois savoir rester humble et reconnaître que soigner les cancellers et leur simplicité mentale nécessiterait trop d'efforts sans espoir de résultats tangibles. À mon sens, il faudrait plutôt pousser les cancellers à faire preuve d'une cohérence plus entière et d'une ambition plus absolue. Je les engagerai donc à considérer toute production humaine, et pas seulement les œuvres artistiques, comme de potentiels vecteurs d'amélioration morale et à les annuler de leur quotidien, si elles ne remplissent pas correctement cette fonction, soit en raison de leur confection suspecte, soit en raison du comportement de l'auteur. Ainsi, l'usage de l'électricité, rendu possible par Thomas Edison, un capitaliste sauvage, cancel. Les vaccins, inventés par un Louis Pasteur convaincu par la supériorité de l'Occident, cancel. L'eau courante à Paris, rendue générale et accessible par l'impérialiste conservateur et autoritaire Baron Haussmann, cancel. Les services d'une ambulance, inventés par le bonapartiste Dominique Jean Larrey, cancel. Les soirées, les séries inspirées par Harry Potter et donc sa créatrice transphobe, cancel. Le pain du boulanger ayant mégenré son nouveau stagiaire, cancel. Le caleçon cousu par un enfant chinois nationaliste et misogyne, cancel. Le vin islamophobe, cancel. L'eau et sa promesse de fluidité et de neutralité égalitaire démentie par les sécheresses en Afrique, cancel. Alors à force, peut-être, les annuleurs finiront par s'annuler eux-mêmes, et nous, nous sablerons le champagne pour célébrer leur disparition à la hauteur de ce qui signifierait, pour l'humanité entière, un pareil événement, enfin un véritable progrès moral.
Merci cher Romaric, et la laïcité cancel, et j'ai envie de poser la question à Benoît Dumoulin. Nous allons y arriver, mais d'abord, on va continuer un peu sur cette histoire de laïcité pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui et ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Donc, je rappelle... Quelle laïcité pour demain, aux éditions Bolen de Benoît Dumoulin, qui nous fait la joie et l'amitié d'être ici aujourd'hui. Alors, la laïcité, on parlait de 1905, les évolutions, l'origine philosophique, le plan machiavélique dressé derrière et puis comment ça a évolué. Justement, sur l'évolution, comment la laïcité a évolué politiquement et juridiquement, on va dire, de l'après-guerre à aujourd'hui.
Alors, dans l'après-guerre, on est dans une phase de réconciliation nationale. Tous les Français sont tombés dans les tranchées, quelle que soit leur conviction religieuse. Et donc, on met en sommeil les dispositions les plus liberticides, à la fois de la loi de 1905, mais aussi de la loi de 1901. Rappelez-vous que la loi de 1901 sur les associations comporte un dispositif très liberticide, en vertu duquel ces congrégations religieuses ont été exclues et exclus du droit à l'association et donc débouté hors de France, en Belgique, en Italie, etc. Et donc, dans les années 20, on est dans une mentalité où désormais les congrégations reviennent, elles se réinstallent, elles n'ont pas encore de statut juridique, mais voilà, on sent que les choses trouvent un apaisement et que finalement l'Église aussi se fait à cette séparation parce qu'elle trouve aussi son avantage à ne plus dépendre de l'État. Il y a un vrai renouveau du catholicisme à ce moment-là. Puis, à nouveau, vous avez la Seconde Guerre mondiale. Et là, en fait, en 1945, les choses vont se durcir. Et c'est le Parti communiste, en l'occurrence un député communiste qui s'appelle Étienne Fajon, qui, dans les travaux de la Constituante en 1946, alors que le Parti communiste est le premier parti de France, va vouloir introduire le mot laïcité dans la Constitution. Et c'est très intéressant parce qu'en face, il y a un démocrate chrétien qui, en l'occurrence Maurice Schumann, qui dit « Oui, mais nous aussi, on peut concevoir la laïcité, mais la laïcité comme la distinction des pouvoirs. » Et sauf que Étienne Fajon ne l'entend pas du tout comme ça. Et que la laïcité ne sera pas définie, mais elle sera introduite dans la Constitution. Et la version qui triomphera, ce sera bien la version intransigeante de la laïcité, la conception française. Et c'est intéressant de voir que c'est le Parti communiste qui l'a voulu. Et donc, à ce moment-là, on a quand même, sous la 4e et sous la 5e République, une laïcité qui conquiert des bastions comme l'éducation nationale, où là, on a une vision assez intransigeante dans les milieux de la culture, ça a été évoqué. Et effectivement, on pourrait dire que la laïcité, à ce moment-là, est assez radicale, mais elle ne vise que certains secteurs où la gauche est très bien implantée et où notamment par exemple aussi le milieu associatif. Bon. Mais elle ne touche pas toute la société française. Et vous avez dans l'après-guerre aussi une société qui vit avec ses racines chrétiennes. D'ailleurs, il y a un renouveau religieux dans les années 50. Voilà. Et ensuite, la troisième phase, c'est à partir des années 90. Où là, 89, c'est l'affaire de Creil, la vie du Conseil d'État. Et donc, à partir de ce moment-là, alors que les laïcars étaient en perte de vitesse, tout simplement parce que, bon, ils avaient certains bastions, mais ils n'arrivaient pas vraiment à imprimer la marque sur la société française, eh bien, la question de l'islam leur a servi de prétexte pour dire on va essayer de réactiver la laïcité. Sauf que ça a été dit tout à l'heure, la laïcité, c'est un édifice juridique qui a été avant tout bâti contre l'Église catholique. Et quand on l'a opposé à l'islam, déjà, juridiquement, on n'avait pas tous les outils pour en faire une arme contre l'islam. Je prends un exemple tout simple. Si on veut lutter contre la présence visible de l'islam et que, par exemple, on veut s'opposer au port du voile, eh bien, la laïcité, en tout cas en 1990, ne le permet pas. Et on a bien vu que qu'il a fallu attendre 2004 pour avoir une loi qui d'ailleurs, ne s'intéresse pas à l'islam, mais aux religions dans leur ensemble. Et que, en fait, là où la laïcité n'était pas faite pour lutter contre l'essor de l'islam, c'est que, par essence, la laïcité place toutes les religions sur un pied d'égalité parce que, article 2 de la loi de 1905, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Mmh. Donc, dans les termes de reconnaissance, si vous voulez, vous ne pouvez pas dire « bah non, on fait la part des choses, il y a une religion qui pose des problèmes, d'autres non ». Ça, c'est impossible à faire. Donc, vous êtes obligé, si vous voulez, utiliser la laïcité, de discriminer, non pas entre les religions, mais de discriminer le fait religieux lui-même. Voilà. Et donc, c'est ça qui se produit. Et donc, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Le problème, c'est que quand vous le faites, vous atteignez toutes les religions. Et quand vous ne le faites pas, en fait, dans les faits, la religion qui pose problème, non pas à la laïcité, mais en fait au vivre ensemble, au bien commun, c'est dans les faits, c'est l'islam ou un certain islam, enfin, en tout cas, le développement de l'islam et le poids qu'il acquiert dans la société française. Mais ça, en fait, vous ne pouvez pas le traiter avec la laïcité. Avec la laïcité, vous pouvez, par exemple, juste couper les flux financiers. Dire, bah non, vous pouvez pas voter une subvention parce que c'est contraire, une subvention à un culte, parce que c'est contraire à la laïcité. Mais même ça, vous pouvez le contourner. Par exemple, vous pouvez indirectement avoir une association cultuelle adossée à une association culturelle ou l'inverse. Et donc, les mosquées, c'est comme ça qu'elles sont financées, c'est que, en fait, les subventions sont fléchées vers la partie culturelle. Mmh. Et comme il y a une opacité entre les deux, comme on voit que au sous-sol d'une salle de sport, bah, en fait, il y a la mosquée, eh bien, c'est comme ça que les cultes sont financés. Autre solution, trouver les baux amphithéotiques pour l'érection des mosquées. Là, depuis 2006, c'est possible. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes dans une commune l'imam vient voir le maire en disant « bah moi, j'aimerais bien une mosquée, mais bon, j'ai pas trop... je peux pas acheter un terrain. » Eh bien, le maire va pouvoir, et ça, juridiquement, c'est tout à fait possible, faire un système avec un bail amphithéotique finalement, il met à disposition le terrain pour une somme symbolique à charge pour l'association islamique de construire la mosquée. Mais en fait, la redevance qu'ils payeront sera symbolique. Donc, c'est une subvention déguisée. Donc, vous voyez, en fait, cette laïcité, elle ne permet pas de se prémunir contre l'islam, d'abord parce qu'il y a des passe-droits, et qu'en plus, elle ne discrimine pas entre les religions, elle discrimine le fait religieux. Et enfin, et à mon avis, ça c'est le plus important, c'est que cette laïcité, avec l'édifice juridique qu'elle tient, elle contribue en pratique beaucoup plus à vider l'espace public de la symbolique religieuse qu'à lutter contre l'islam. Je prends un exemple tout simple. Et très récent. En mars dernier, avec les municipales, il y a eu des élus insoumis qui, au lendemain du premier tour, ont fait irruption au conseil municipal de Chalon-sur-Saône, dirigé par Gilles Platré, un maire par ailleurs très courageux, qui avait, sur le fondement du règlement qui régit l'Assemblée nationale, interdit les tenues religieuses dans son conseil municipal, en disant bah, comme ça, au moins, les élus qui veulent venir voiler ne le pourront pas. Eh bien, la première chose qu'ont fait les insoumis, donc des femmes qui voulaient venir voiler, eh bien, ont contesté ce règlement. Donc, pour l'instant, ça a été débouté en urgence, mais l'affaire est toujours au fond. Et en fait, pourquoi c'est une fausse bonne idée On pourrait dire, ah bah oui, c'est très bien, on va interdire aux élus d'avoir des signes religieux, au moins comme ça, ils mettront leurs idéologies au placard le temps d'un conseil municipal. Mais en fait, non, parce qu'un élu, c'est pas un fonctionnaire. Un élu, il a le droit d'avoir ses idées. Il a le droit de venir comme il est. C'est pas celui qui incarne l'État, qui est neutre. Et donc, le problème, c'est que si vous faites ça, vous avez, par exemple, certaines communes où vous avez une abbaye dont le poids majoritaire le poids de la communauté des moines dans le village est tel que eh bien il y a un moine qui est au conseil municipal, des choses comme ça, et donc vous allez leur demander de se dépouiller de tout ça. Non, en fait, vous voyez que là c'est une fausse bonne idée, parce que c'est pas en se dépouillant de ce qu'on est qu'on traitera la question du sable. Il faut la traiter comme elle est, et il faut pas la traiter avec l'outil de la laïcité, il faut la traiter avec l'outil de la culture, de l'assimilation, des flux migratoires, de la
pas
manière...
Pas comme une religion, quoi, en fait.
Pas comme religion,
comme
civilisation.
Une civilisation, une culture. Romain, qui s'engarce.
Oui, à propos de ce sujet, moi j'étais très frappé, parce que ça fait, j'ai l'impression, une quinzaine d'années que, quand il y a des débats à ce sujet-là, à la télévision par exemple, systématiquement, essentiellement les immigrés musulmans sur ce thème, en fait, donnent une interprétation américaine ou anglo-saxonne de la laïcité, c'est-à-dire ne cesse de répéter que la laïcité, c'est pas l'évacuation, l'occultation même de ce qui est le cas de la laïcité française, avec tous les défauts que ça peut avoir évidemment, mais l'occultation du fait religieux, mais au contraire la liberté, la libéralisation du fait religieux, ce qui est complètement faux et contradictoire, ce qui prouve déjà que ces gens-là, quand ils en parlent, sont peu au courant des mœurs et des normes du pays dans lequel ils habitent, et qui sont sans doute en effet déjà complètement imprégnés par l'impérialisme anglo-saxon et ses propres valeurs, et ils sont rarement repris, hein, en l'occurrence. Il y a vraiment une confusion, j'aimerais savoir, disiez par rapport à ça, comment s'articule cette confusion entre laïcité à l'anglo-saxonne et laïcité à la française, parce qu'on a l'impression que de la même manière que la gauche post-moderne et la gauche ancienne, enfin laïcarde et minoritariste sont en contradiction permanente, mais en fait on a l'impression que ce sont des gens qui fluctuent entre l'une et l'autre sans trop savoir où ils habitent, c'est pareil un peu pour la laïcité, et puis, pour la même question, qu'est-ce que ça donne justement dans les pays anglo-saxons, dans ce problème avec l'islam, avec leur laïcité à eux, quel est le résultat, puisque vous dites que la laïcité à la française n'est pas efficace?
Alors, très bonne question. Effectivement, il y a une instrumentalisation de la laïcité à des fins de conquête islamique, hein, tout simplement. Et donc, c'est très facile d'utiliser la laïcité à l'anglo-saxonne pour revendiquer une liberté communautariste, en fait, liberté de me vêtir comme je veux, et à ce moment-là, c'est très facile de dire que la laïcité française est sectaire, est liberticide, que nous sommes isolés en Occident, ce qui est en partie vrai, hein, parce qu'il y a plus... La laïcité à l'anglo-saxonne est beaucoup plus répandue que la laïcité à la française. Hein. Nous, je crois qu'on n'a pas tellement d'émules. On a la République tchèque, on a un petit peu les Pays-Bas, et encore. Il y a une vraie instrumentalisation de la laïcité à l'anglo-saxonne pour imposer l'islam dans la société française. Et alors, est-ce que la laïcité à l'anglo-saxonne, ça marche mieux? Est-ce qu'on arrive à mieux se prémunir contre l'islam? Eh bien non, c'est pas non plus un bon système. C'est un système qui est moins liberticide, qui est peut-être moins absurde que la laïcité à la française. Donc, à tout prendre, je préfère la laïcité américaine que la laïcité à la française. Mais en fait, ce n'est pas ça non plus qui permettra de s'en sortir. C'est un combat civilisationnel. Voilà. Et s'il n'est pas mené, quel que soit le type de laïcité que vous avez, en fait, c'est une question de curseur. C'est que la laïcité, c'est une espèce de no man's land où on dit, puisque la religion nous divise, dans cet espace-là, il n'y aura pas d'affichage religieux. C'est très compréhensible, par exemple, pour les fonctions de souveraineté. Vous n'avez pas envie d'obéir à un policier musulman, à un magistrat juif, à un militaire chrétien. C'est pour ça que l'uniforme est là. Donc, en fait, la laïcité, quand elle vise les symboles de la souveraineté, en fait, elle permet que chacun se reconnaisse dans la société. Donc ça, c'est bon. Mais le problème, c'est que quand vous faites dévier le curseur et que
petit à petit, vous dites, ah bah oui, mais c'est aussi l'école, parce qu'il y a des débats qui s'invitent à l'école. Ah, mais c'est aussi le sport, parce que, regardez, il y a des questions qui s'invitent dans le sport. En fait, vous allez aseptiser toute la société, alors qu'en fait, on sait très bien que c'est pas forcément des conflits de nature religieuse. Quand Gaza s'invite dans le sport, Gaza, c'est un conflit international. Alors oui, c'est aussi religieux, mais c'est aussi un conflit politique. C'est plein de choses, en fait. Donc c'est complètement absurde de vouloir aseptiser la société. Donc, ni la laïcité à l'anglo-saxonne, au sens de tolérance, permission, ni la laïcité d'occultation à la française ne régleront le problème. Le problème, c'est un problème de civilisation. Donc, ne demandons pas à la laïcité de faire quelque chose pour lequel elle n'est pas faite. La laïcité, c'est juste un espace tampon quand on a envie de se foutre sur la gueule et en disant, bah non, là, en fait, chacun doit se reconnaître dans certaines fonctions. Donc, ne parlons pas de ça, comme à table, par exemple, si on dirait à un repas de famille, ben on va parler ni politique ni religion le temps d'un repas, mais ça ne veut pas dire que les parents enlèvent le crucifix qui est au mur. Quoi. Vous voyez, c'est
le
ça.
Le repas laïque du dimanche, c'est assez sympathique. Mais alors, beaucoup, en tout cas une partie à droite comme à gauche d'ailleurs, qui ont pris la mesure du danger de la conquête islamique, ou de l'islam politique, si on veut parler comme dans les journaux de grand chemin, disent deux choses. Que, un, ce qui a évité à la France de devenir l'Angleterre, c'est-à-dire des califats qui poussent un peu partout, on n'en est pas encore là aujourd'hui, même si les élections municipales ont vu une évolution, ça reste quand même très marginal, c'est la laïcité, ce qui a permis de ralentir ça. Et d'autres disent, ok, la laïcité est un édifice juridique, comme vous l'avez expliqué, mais néanmoins, c'est un outil aujourd'hui qui peut nous servir encore à ralentir et à lâchement combattre l'islam politique.
Ouais, alors je suis assez sceptique là-dessus, c'est ce qu'on entend souvent. Moi, je pense que c'est vrai que la France résiste mieux en potentiel, enfin, par rapport à l'Angleterre, il y a des tribunaux de la charia en Angleterre. Oui. C'est vrai, il faut reconnaître. On a une menace, mais je pense que c'est lié... c'est lié à l'esprit français. Alors, mettre ça sur le compte de la laïcité, alors que la laïcité, en fait, nous déracine, moi, je pense que c'est une certaine vision. Alors, pour le coup, je dirais plutôt un certain universalisme, même à la rigueur, un côté républicain. Ça... En fait, c'est lié, je pense, plutôt au poids de l'État dans la société française. Et ça, pour le coup, c'est très français. Le poids de l'État, en France, moi, je m'en plains beaucoup parce que on voit que, surtout quand on est entrepreneur, que l'État est partout. Mais peut-être que le poids de l'État dans la société fait que, contrairement aux pays anglo-saxons, là, oui, il y a plus de contrôle, il y a plus de réglementation. Donc, oui, il y a peut-être plus de marge de manœuvre pour résister. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment la laïcité parce que, en fait... encore une fois, c'est par exemple, c'est des contrôles qui vont être effectués par les services sociaux ou dans certaines écoles coraniques. Voilà, c'est le travail des renseignements généraux.
L'assimilation pendant très longtemps.
Oui, voilà, c'est la tradition française d'assimilation. Là, je pense qu'on a encore quelque chose de ça. On n'est pas encore devenu des anglo-saxons. Et ça, c'est très bien. Gardons ça. Gardons ce modèle un peu napoléonien, même si l'homme... Je le voue aux gémonies, mais en tout cas, il a construit un appareil administratif très centralisé et ça a quand même du bon. Voilà.
Alors, votre titre, c'est « Quelle laïcité pour demain ?» Bon. on va avoir la réponse. Hein. Nos auditeurs veulent la réponse. Déjà, est-ce qu'il y a une bonne laïcité possible ? Et à vous écouter, quelle serait l'utilité réelle de la laïcité aujourd'hui ? Alors, pourquoi la garder ?
Il y a une...
Au-delà du fait que ce soit évidemment impossible politiquement de dire on supprime la laïcité, voilà. Déjà, non, c'est pas possible. Mais
déjà, ça, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. La politique, c'est pas l'art du meilleur dans l'absolu, c'est l'art du meilleur possible. Donc, rien que ça, c'est une bonne raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sortir d'un cadre laïque de la laïcité à la française, c'est pas possible. Mais je vais pas m'en tenir à ça. Je pense que oui, il y a la possibilité d'une saine laïcité. Alors c'est marrant parce qu'à la fin, dans mon dernier chapitre, justement, j'esquisse, mais à travers en fait, les écrits du cardinal Ratzinger, notamment, puis de Benoît XVI, quand il est devenu pape, ce que pourrait être une bonne laïcité. En fait, une bonne laïcité, c'est une laïcité qui qui refuse le mélange des genres. C'est-à-dire qui donne ces lettres de noblesse à la politique en disant « mais ça, c'est le domaine de la raison ». Il n'y a pas forcément besoin d'arguments d'autorité ou d'arriver avec une croix. On donne tous ces droits à la raison. Et par ailleurs, on admet que la raison ne régit pas toute la vie sociale et qu'il y a un espace pour la foi, pour l'expression publique du fait religieux, et que ces deux choses doivent être harmonisées, mais distinctes. Et je pense que ça, c'est très français de distinguer, et ça éviterait un mélange des genres qui, moi, me gêne beaucoup outre-Atlantique, quand on voit Trump avec des pasteurs protestants qui prient sur lui, et puis, quelques jours après, il va bombarder en Iran. Et donc, il bombarde au nom de Dieu, il fait la croisade comme son prédécesseur, Bush. Et ça, on voit que c'est à la fois une instrumentalisation, et puis, en fait, c'est très mauvais, ça peut conduire, en fait, des gens qui veulent du coup s'opposer à Trump à dire bah, si c'est ça à la fois, eh bien, on s'oppose aussi à la fois. Vous voyez, c'est une espèce de mélange des genres, de mauvaise imbrication. C'est comme si moi, au lieu de. Si je suis en désaccord avec vous, et au lieu de vous répondre, je vous brandis un crucifix en disant je sais pas, t'es un mauvais chrétien ou renie. Il y a une saine distinction. Et quand on est en politique, on se place sur le registre de la raison.
Romaric, pour une dernière question.
Oui, c'est juste parce qu'il me semble que est-ce qu'il n'y aurait pas, du point de vue des catholiques, à partir du 19e siècle et de toutes ces consensuels de la laïcité, une tentation parfois d'ultramontanisme, justement, c'est-à-dire d'oublier cette bipolarité médiévale, et donc de se réfugier dans une défense inconditionnelle de la papauté en tant que pouvoir temporel pour compenser, quoi.
Alors, vous avez 30 secondes pour répondre.
Je vous rejoins totalement. Les catholiques au 19e siècle ont cherché leur pouvoir soit du côté de l'État, soit du côté d'une conception totalement hypertrophiée du pouvoir de l'Église, qui était en fait un cléricalisme que l'Église a elle-même répudié. Et donc, ça a fait beaucoup de tort. Donc là, je partage totalement ce que vous venez de dire.
Merci beaucoup, Benoît Dumoulin. Je rappelle donc votre livre « Quelle laïcité pour demain ?» aux éditions Bolen. Je rappelle également que vous êtes directeur d'Ictus. Donc c'est bien pour envoyer vos enfants et vos adolescents et jeunes adultes former l'esprit, l'âme et la tête surtout. C'est important. Je rappelle également le livre de François Cérézac que nous avons reçu un peu plus tôt, « Nos amis les traîtres », portrait assez croustillant d'une 52 traîtres français, plus ou moins sympathiques, plus ou moins glorieux, plus ou moins géniaux. Voilà. Et je rappelle également que le magazine de l'Incorrect vous attend chez votre marchand de journaux, à la une, Charles Alloncle qui accuse donc l'audiovisuel public alors que les auditions de la commission d'enquête se terminent ce soir avant que le rapporteur écrive ses conclusions dans un rapport qui va être voté pour ou contre sa publication, enjeu important parce que s'il vote contre, tout disparaît, les vidéos, les comptes rendus, les preuves et surtout, même si vous les avez gardées, vous ne pourrez pas les utiliser. Voilà, c'est bon pour nous, on se retrouve mercredi prochain, demain au micro de Restons Courtois, ça sera Marc Hainaut. Et vendredi, ce sera Marc Baudrier. Et donc, nous, on se retrouve mercredi. Bonne soirée, chers auditeurs.
Ça suffit maintenant.